sur les docks avec, comme chaque lundi, le programme de la semaine avec vous, Irène.
Oui, Hervé Gardet, dès demain, notre semaine sera sous le signe de la musique. Jeudi, nous retrouverons le pianiste Hubert de Gex, connu également pour être devenu à partir de 1966 l'accompagnateur des frères Jacques. Mercredi, nous parcourrons 70 ans d'archives du New Orleans au Free Jazz, en passant par le bebop en compagnie d'André Francis. Mardi, jazz toujours, celui de la fin des années 40 en France, restauré par Lina grâce à la curiosité acharnée d'Annie Lozana.
Et aujourd'hui, c'est un tabou que sur les docks se consacre.
Oui, Hervé, chaque année en France, plus d'une cinquantaine de médecins mettraient fin à leur jour dans un silence médiatique quasi absolu. L'APSS, Association pour la promotion des soins aux soignants, a mis en place 5 établissements confidentiels pour accueillir celles et ceux qui, pour des raisons diverses, ressentent cette angoisse de mort. Nous retrouvons Ayati Bassarslan dans un de ces établissements avec des patients et en compagnie des docteurs Léopold et Granier.
Il est beau ce parc, hein, c'est
magnifique.
Plein d'allées partout.
Bah, c'est une chance pour les patients d'avoir un tessite. Ouais. Hein. Il y a des promenades prévues par ailleurs dans les activités là, qui sont proposées. Okay. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Et ça a été créé de toutes pièces, d'après ce que m'a dit le jardinier, en 40 ans. Avant, il n'y avait rien du tout ici. Ah oui, non, c'est magnifique.
Médecin, une profession au bout du rouleau. Un documentaire de Ayati Bassarslan et Jean-Philippe Navarre.
Au départ, on ne s'en rend pas compte. On se dit, bon, on va faire face, on va essayer d'adapter les choses, de transférer les problèmes, de voir ça avec les collègues. Mais accepter une situation d'insuffisance par rapport au patient, il n'est pas facile, effectivement, de la nommer, il n'est pas facile de la décrire, il n'est pas facile d'en parler. C'est-à-dire qu'on en parle à des collègues très très proches, mais très souvent, beaucoup sont dans la même situation et parlent exactement des mêmes choses. Ce qui veut dire qu'il y a un moment, on se retrouve dans une situation d'impuissance par rapport au patient. D'impuissance.
Jung parlait, lui, des médecins malades. Et disait que ça n'était pas de mauvais médecin, il disait très exactement, c'est la blessure qu'il porte en lui qui fait le meilleur d'entre nous. Il y a une histoire qui est extraordinaire, qui est une histoire de la mythologie, qui est Chiron. Chiron, qui est un centaure, qui est blessé par une flèche et qui souffre énormément, mais il a l'éternité parce que c'est les attributs du centaure. Et il va souffrir, souffrir, souffrir sans fin. Et à un moment, on lui apprend la médecine, il devient, à cause de cette souffrance, parce qu'il cherche des remèdes à ça, il devient le meilleur médecin de l'Antiquité, et en particulier le père d'Esculape, enfin le père formateur d'Esculape. Et à un moment, il va poser la question aux dieux de savoir si on ne peut pas supprimer cette éternité, parce qu'il en a marre de souffrir. Il se fait à l'évidence de la non-disparition de la douleur et du meilleur choix que peut être la mort dans ce cas-là. Un médecin malade, pour ses pairs, pour le Conseil national de l'ordre, c'est un sujet tabou. Parce qu'il faut que la population ait une confiance totale dans le corps soignant. Et si le corps soignant est malade, s'il est altéré, s'il est moins en état de bien soigner, eh bien, ça devient extrêmement dérangeant. Donc on préfère occulter le problème. Le corps médical est toujours au summum de sa force et de ses capacités.
Faut-il prononcer le mot de tabou ? C'est un sujet qu'on ne prenait pas en compte, que nous avons, nous autres médecins, assez peu pris en compte. Je ne dirais pas que c'est un sujet tabou, comme quelque chose dont il ne fallait pas parler. C'est un sujet qu'on avait du mal à prendre conscience, je pense. C'est le médecin qui se sent malade et qui ne se donne pas le droit d'être malade. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, il n'y avait pas une instance supérieure qui lui interdisait d'être malade. C'est pas ça. C'est le médecin en lui-même ne se donnait pas ce droit-là. Et notamment dans des problématiques d'épuisement. Sans faire de grands mots, mais enfin, c'est quand même un peu ça que ça amène à une notion un peu sacrificielle. Je ne veux pas me reconnaître malade parce que c'est quelque chose qui, pour moi, non, je n'ai pas à être malade, je dois être là pour les autres, mais pas pour moi.
Yves Léopold, je suis médecin généraliste, auteur d'une étude sur le suicide des médecins. Le point de départ de l'enquête, ça a été l'anniversaire de notre groupe de formation médicale continue. On fêtait les 25 ans. Et le président a réclamé qu'on ait une petite pensée pour les 5 membres qui nous avaient quittés, qui étaient décédés pendant ces 25 ans. On a donné les noms. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que sur le 5, il y en avait 3 qui s'étaient suicidés. Ça m'a paru quand même curieux. J'ai demandé au secrétaire du conseil départemental de me sortir la liste des décès de médecins sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, il y avait 22 médecins en activité qui étaient décédés. Et en interrogeant le soir de la plénière les membres du conseil de l'ordre sur les causes de décès de ces médecins, on s'est rendu compte qu'il y en avait 11 qui s'étaient suicidés, 50%. Et j'ai posé la question aux membres du Conseil national, leur dire « Mais vous êtes au courant d'une surmortalité ou c'est juste un effet local, une loi des séries ?» Et puis le président du Conseil de l'Ordre de l'époque, le professeur Roland à Paris, m'a rappelé, il m'a dit « Écoute, il faut que tu fasses une enquête nationale, c'est trop alarmant ce que tu me dis, on fait une enquête nationale, dis-nous comment la faire. » Et c'est avec le Conseil national et tous les conseils départementaux qu'on a fait cette enquête.
Ça c'était en 2003, c'est ça ?
C'était en 2002-2003, oui.
Après en 2008
En 2008, on a lancé un autre type d'enquête. La caisse de retraite a la connaissance, puisqu'elle paye les retraites et qu'elle paye aussi les indemnités d'essai, de tous les médecins libéraux. J'ai demandé à ce qu'on interroge les familles à chaque décès, sous le couvert de l'anonymat, parce que c'est pas facile du tout de dire sur un truc nominatif « oui, mon mari s'est suicidé », qu'on interroge toutes les familles à chaque décès. Et à ce moment-là, on a trouvé une surmortalité de 1,8 par rapport à la population générale. Je vous rappelle que la première enquête avait monté une surmortalité multipliée par 2,5. Et là, on était à 1,8. Mais je pense qu'il y a eu un biais qui était un biais de recrutement. Même quand vous avez l'anonymat et que vous êtes sûr que votre assurance qui exclut le risque suicidaire des garanties ne vous piégera pas, il est quand même pas facile pour une femme de dire « oui, mon mari s'est suicidé » ou pour un fils de dire « oui, mon père s'est suicidé ». C'est moralement extrêmement difficile, c'est une prise de conscience, c'est une mise en cause de sa propre responsabilité.
La question du suicide chez les médecins, vous en parlez avec vos patients ?
Évidemment, absolument. Absolument, c'est même une des premières questions qui se posent. Est-ce que c'est quelque chose qui est des idées qui sont déjà venues, qui ont déjà traversé l'esprit? C'est une des premières, des premiers aspects à aborder. Parce que bon, les médecins, par définition, savent en plus quels moyens, entre guillemets, techniquement, peuvent être les plus létaux ou les plus tristement efficaces dans ce domaine-là. Donc oui, c'est quelque chose qu'on aborde très vite et qu'on réaborde régulièrement au cours du séjour et qui, fort heureusement, disparaît assez rapidement. Et avec une des idées fortes qu'on essaie de transmettre ici, c'est que si jamais à nouveau d'autres idées de suicide réapparaissent, si ce n'est pas au début, surtout de ne pas rester isolé, mais aller immédiatement demander de l'aide, que ce soit vers d'autres confrères, rappeler ici, vers les associations d'entraide professionnelle, etc. Surtout ne pas rester seul.
C'est d'une violence extrême, parce que vous vous dites, ce gars-là, je le connais, il avait l'air plutôt bien, j'ai rien vu venir, quoi. Ou pire, j'ai vu venir et j'ai rien pu faire. J'ai des gens que je connais qui se sont suicidés, j'ai des collègues aussi qui ont été peut-être pas suicidés, mais qui ont dû arrêter le métier parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est d'une violence extrême, quoi. Extrême, extrême, quoi. Ou même pas suicidé, il a une maladie noble, cancer, c'est-à-dire que c'est pas une question psychologique. Mais il a lutté, et puis un jour il est mort, quoi. J'ai essayé de l'aider, mais j'ai pas pu. De toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire ? Vous voyez, c'est la vie en général. Mais aggravé du poids du fait que je suis médecin, que je l'ai vu, que je l'aurais peut-être pu, mais au fond, on est des patients comme les autres. Mais c'est un peu plus compliqué, quoi.
On est confronté à la vie souffrante. On est confronté à la vie avec difficulté et avec la mort, sinon en perspective, mais toujours comme une angoisse. Donc c'est une profession où, par définition, l'angoisse est toujours présente. L'angoisse de ce qui peut se passer, l'angoisse de ce qu'il peut y avoir derrière, de si la maladie continue, qu'est-ce qu'il va y avoir, et l'angoisse, au terme ultime, c'est toujours l'angoisse de la mort. Donc oui, on apprend la vie, mais on apprend, c'est pas la vie, sereine et apaisée. Je crois que c'est Claude Bernard qui disait que la santé, c'est le bien-être dans le silence des organes. Quand on est médecin, justement, les organes ne sont pas silencieux. Et on voudrait qu'ils le deviennent. Et derrière ce bruit, il y a cette angoisse, et cette angoisse qui dit que peut-être il y a la mort. Donc non, on travaille en permanence avec les deux. Tout médecin est confronté à cette dimension-là. Ces quatre dimensions, on pourrait dire. Vie, vie souffrante et angoisse de mort. Donc, docteur Emmanuel Granier, psychiatre, m'occupant effectivement de soins pour les soignants de manière globale, pas uniquement les médecins, mais les soignants en général.
Comment l'idée est venue de créer un centre pour les médecins malades ici ?
Travaillant au psychiatre d'urgence, le principal motif pour lequel on était appelé aux urgences, c'était les tentatives de suicide. À Avignon, donc également, se trouvait le docteur Léopold, qui avait été confronté à plusieurs décès par suicide de confrères. On s'est rencontrés à ce moment-là, par le biais de rencontres au Conseil de l'Ordre, etc. Et donc, un peu nos deux interrogations, nos deux préoccupations, moi par le biais de ma spécialité de psychiatre et d'intérêt pour les problématiques suicidaires, lui par le biais de sa spécificité ordinale et en même temps de médecin responsable de la caisse de retraite et de prévention des médecins, nous avons essayé de commencer à travailler ensemble sur ce problème-là. On a fait plusieurs formations, ça nous a amené à travailler sur les problématiques d'épuisement professionnel. Et puis, ayant changé de lieu d'exercice et me retrouvant dans cette clinique, progressivement est apparue la nécessité cruciale d'avoir un lieu de soins dédié pour les médecins.
Actuellement, cette association, qui est l'association pour la promotion des soins aux soignants, a sélectionné plusieurs établissements répartis sur la France, dont on garde les adresses confidentielles pour des raisons de confidentialité, bien sûr, et de secret médical, et qui accueillent des médecins. L'une d'entre elles en a accueilli une centaine l'an dernier, sur des hospitalisations malheureusement trop courtes, parce que les médecins veulent tout de suite repartir au travail, n'ont jamais le temps de se soigner. Et on a mis en place des systèmes d'aide financière pour les aider à se soigner, puisque les médecins libéraux, en particulier, quand ils s'arrêtent, ne sont pas aidés pendant les 90 premiers jours de leur arrêt, n'ont pas d'indemnité journalière, n'ont pas de ressources, alors même qu'ils ont les frais de leur cabinet qui persistent.
Ça peut être les kinés, les psychologues, donc les médecins, généralistes ou spécialistes, les infirmiers, les aides-soignants, voilà, c'est au sens large. Donc moi je suis Sandra Char, je suis psychologue spécialisée dans les thérapies cognitives comportementales.
Quels sont les mots des médecins ?
L'épuisement physique et psychologique, parce qu'ils souffrent beaucoup de surcharge de travail. Après il y a des addictions souvent qui se mettent dessus. Parce qu'ils n'arrivent plus à gérer les émotions, leur anxiété, ils n'arrivent pas à s'affirmer, donc à dire non à certains patients, à limiter la surcharge de travail. Donc tout ça amène un état d'épuisement, donc de dépression, d'anxiété, de dépendance addictive. C'est des métiers à risque. Donc c'est les aider à se reconnecter à leurs émotions, à leurs sensations, retrouver le plaisir et l'envie. Et ça c'est vraiment l'objectif premier, c'est retrouver... l'envie de faire les choses dans la vie de tous les jours, dans des petites choses, pour ensuite avoir envie et sentir prêt à retravailler. Mais c'est déjà, à la base, retrouver l'envie de faire des choses, ce qui n'existe plus dans la dépression. Et donc le but aussi, c'est d'essayer de les recentrer sur eux et de leur apprendre à s'occuper d'eux, en fait. Ce qu'ils ont tendance à oublier, ce qui les amène dans un épuisement, voilà, c'est important. Et ce qui est aussi difficile pour eux de se recentrer sur eux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc ça, c'est commun à tous, en fait.
Il a le droit d'être malade, un médecin ?
Il commence à l'accepter, oui. C'est difficile pour eux, hein. Mais oui, il y en a qui arrivent à s'accorder le droit de l'être. Mais il faut un certain temps dans l'hospitalisation, c'est pas les premiers jours, la première semaine qu'ils sont dans ce discours-là, souvent, il faut un peu plus de temps.
Mais justement, quels sont les parcours pour qu'ils acceptent leur maladie ?
Quand ils arrivent à lâcher prise. Donc, sur ce qu'ils ressentent, leur mal-être, à accepter qu'ils vont mal et qu'ils ont besoin d'aide. Le plus difficile, souvent, pour eux, c'est d'accepter qu'ils ont besoin d'aide. Donc c'est, oui, c'est un travail de lâcher prise et c'est un travail institutionnel. Donc ça se passe pas qu'en entretien avec moi, puisque moi je les vois qu'une fois dans la semaine. Ça se passe dans tout ce qui est activité thérapeutique, dans les échanges avec le médecin, avec les infirmiers. Voilà, c'est un travail vraiment d'équipe et de tous les jours.
Lorsqu'on arrive en état de burn-out, on est excessivement exténué, fatigué, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a tendance à éviter tout contact, toute activité, à se mettre à l'écart. Et petit à petit, du fait des activités qui sont proposées et de la thérapie psychiatrique qui est faite, effectivement, on se rend compte qu'on reprend contact, qu'on reprend des rapports normaux avec les gens, qu'on...
Le dialogue.
Voilà, tout à fait. Le dialogue avec les soignants, l'équipe soignante, et aussi avec les autres patients. Il est très important d'avoir effectivement des structures où il y a les patients qui se parlent. Parce que ça permet à chacun de faire le point de son côté, de pouvoir comparer les choses et de se reconnaître aussi dans certaines choses. Tout à fait.
Et vous, personnellement, votre mal a commencé quand ?
Alors, en ce qui concerne ce qu'on appelle le burn-out des soignants, ça vient d'une particularité du soignant. C'est-à-dire qu'on est confronté à des plaintes somatiques des patients pour lesquelles le patient est une entité entière. Il donne ses mots qui lui sont propres du fait de ses antériorités personnel, familial, social, etc. Et il faut à ce moment-là démêler un petit peu ce qui revient au somatique et ce qui revient au psychisme. C'est pourquoi certaines maladies sont qualifiées de psychosomatiques. Du fait de cette prise en charge globale du patient, ça affecte effectivement le soignant. C'est-à-dire que le soigné transmet au soignant, ce qu'on appelle le transfert, transmet au soignant toutes ses craintes, toutes ses demandes, tout ce qui peut être sujet à expression de son propre corps. Du fait des changements de conditions de travail à l'heure actuelle, essentiellement dans le service public, mais c'est à peu près équivalent dans le service privé, la charge de travail est telle qu'à un moment, il y a un trou plein. C'est un petit peu comme un verre qui se remplit progressivement, et après ça déborde. J'ai fait des études de médecine par hasard.
Par hasard ?
Complètement par hasard. J'ai passé mon bac à Cherbourg et mes parents, enfin du fait du travail de mon père, ont été habités à Reims. Et j'avais à l'époque 17 ans. J'ai donc pris le train de Cherbourg à Reims pour aller m'inscrire. Je voulais faire un BTS d'électricité. Malheureusement, l'IUT était fermé et juste en face, il y avait la fac de médecine à Reims. Ce qui veut dire que je ne voulais pas m'être déplacé pour rien et j'ai donc fait médecine par la suite, ce qui m'a plu d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai continué.
Qu'est-ce que vous avez fait comme spécialisation, vous ?
Moi, j'ai fait une spécialisation nez, gorge, oreille et chirurgie maxillofaciale. Lorsque j'ai passé le concours de l'internat à la faculté en question, j'ai été nommé à Marseille.
Et après ?
Et après, j'ai trouvé un poste hospitalier à proximité. Mmh. Et une association en médecine libérale à proximité également.
Et ça fait combien de temps que vous exercez ?
Ça doit faire maintenant 30-35 ans.
Est-ce qu'on est médecin au hasard ?
C'est une question qui est souvent abordée ici dans le cadre des séjours des patients. Qu'est-ce que c'est qui m'a amené à être médecin ? Ça veut dire quoi pour moi être médecin ? Qu'est-ce que j'imaginais de ce métier ? Et qu'est-ce que, après 10 ans, 20 ans d'exercice, je constate comme écart entre ce que j'envisageais de ce métier et ce que je vis maintenant ?
Existe-t-il un profil psychologique pour devenir médecin, ne serait-ce qu'au début de ses études ?
A priori, non. En revanche, il existe un profil psychologique particulier qui est surdéveloppé pendant le cours de la pratique médicale et qui est le profil, on va dire, un petit peu rigoureux, méticuleux, avec enfin, une espèce de perfectionnisme qui est souvent un peu nécessaire au début. On va dire il faut avoir un peu ce trait de personnalité au début pour bien réussir dans les études et qui, pour rester non seulement efficace, mais rigoureux dans le travail, a tendance à s'accroître de manière importante jusqu'à pouvoir devenir un peu paralysant. Les études canadiennes retrouvent vraiment ça, et c'est aussi ce que nous on constate ici sur nos propres études avec les soignants hospitalisés, qu'il y a ce côté perfectionniste qui est vraiment surdéveloppé. Pour rester tout à fait compétent, pour rester valable, fiable, et qui souvent peut devenir plus un, comment dirais-je, un, pas dire un boulet, mais presque quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi. On devient trop tatillon, trop rigoureux avec nous-mêmes, et du coup, on devient moins efficace.
Mais comment ça a été au début et comment c'est aujourd'hui, justement, la pratique de votre métier ?
Alors, ça a beaucoup évolué, beaucoup évolué. C'est-à-dire que, au départ, surtout dans le système public, les mentalités n'étaient pas les mêmes, la charge de travail était identique à celle qu'il y a maintenant, voire plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problèmes médico-légaux particuliers, il n'y avait pas de contingences particulières, et on était amené à travailler énormément, et on était très proches, les équipes étaient excessivement soudées. D'une échelle de 1 à 5, du soignant numéro 1 jusqu'au soignant numéro 5, il n'y avait pas de différence. Ce qui veut dire que tout le monde était incorporé dans une idée de thérapie somatique globale. Et ce qui a beaucoup changé maintenant, c'est le fait que les rôles se soient énormément cloisonnés. C'est-à-dire que maintenant, on aboutit à une hiérarchisation des fonctions, une responsabilité différente et pour lequel, effectivement, il y a moins d'esprit de corps. Alors, du fait de l'administrativation, si vous voulez, des choses, les soignants passent de moins en moins de temps pour le patient et passent de plus en plus de temps pour des tâches administratives, ce qui les éloigne considérablement du patient, ça c'est évident.
Alors, je m'appelle Eric Gallam, je suis médecin généraliste. Moi, je suis un vieux médecin maintenant. Hein. Je suis ici, là, dans ce cabinet depuis 35 ans. Au bout de quelques années, j'ai compris que j'avais la chance d'avoir un métier plein d'humanité. Si on oublie qu'il y a de l'humanité dans le soin, le jour où ça arrive, ça nous explose à la figure et on ne sait pas le gérer et pour les patients et pour nous. De la même façon, on apprend aux étudiants à faire comme si la médecine était une science exacte, comme si s'il y avait une erreur, c'est qu'ils étaient nuls et qu'ils devaient se cacher, qu'ils devaient avoir honte et surtout ne pas demander de l'aide parce que c'est en plus tu as fait une erreur et en plus tu veux qu'on t'aide alors qu'il y a une vraie souffrance. Donc on apprend à gérer ça. Troisième niveau sur les rivalités, la hiérarchie, on apprend aux médecins qui peut travailler 20 heures par jour, qu'il n'a pas à se plaindre, que s'il y a des harcèlements, mais des violences symboliques vis-à-vis des jeunes, etc., ça fait partie de la vie. Moi aussi, je suis passé par là et tu ne vas pas nous embêter. Si tu veux être docteur, tu dois être un super-héros et assumer le fait que moi, je suis ton chef super-héros et que donc tu me dois le respect par ce fait-là. Il y a une zone de non-droit dans la façon dont sont traités, par exemple, les internes. On leur dit il ne faut pas travailler plus de 50 heures par semaine. Ils ne doivent pas travailler plus de 20 heures d'affilée. Mais à quel salarié on s'est période de grève, vous diriez tu dois faire... et ils acceptent. Si un interne est malade, il va vous dire moi je suis malade, mais si je vais pas travailler, mes collègues vont avoir plus de boulot. Et que va dire de moi le chef et mes patients, etc. Donc quelque part le médecin est condamné à être dans quelque chose de pas tout à fait normal et ça fait partie du métier et c'est important de le préserver. Mon propos n'est pas d'annuler ces choses-là, mais d'éclairer ce curriculum implicite qui est tellement évident qu'on ne le voit plus. Et donc, moi, je suis professeur à Bichat, à Paris Diderot. Je travaille beaucoup avec des internes, avec des plus jeunes médecins, donc des externes, et aussi avec les médecins installés. Pour, au fond, mon propos, c'est de réintroduire à sa juste valeur, mais c'est-à-dire une grande valeur et discrète, l'humanité du médecin dans les soins qu'il donne à ses patients.
Comment on gère ces sentiments, justement ?
Eh ben, c'est le problème, c'est qu'on n'apprend pas à le faire. C'est aussi pour ça qu'il faut éclairer ce Hidden Curriculum par rapport à nos étudiants. Si on leur dit ça n'existe pas, si on leur apprend pas à le faire, si on leur apprend pas qu'est-ce que c'est que d'être en face de quelqu'un, un vieux monsieur qui a un cancer ou un tout jeune qui pourrait être mon pote et à qui je dois annoncer qu'il est séropositif et qu'il va... Bon, maintenant, ça, on a des traitements, mais quand même, c'est d'une violence extrême et on leur apprend pas ça.
Les interventions de soignants au Bataclan, qui ont été un cas d'école finalement. Envoyer brutalement des soignants jeunes de 30-35 ans, parce que c'est l'âge habituel de la plupart des urgentistes, prendre en charge une population du même âge, c'est-à-dire ces espèces d'autres moi, mon semblable, dans des conditions de drame terribles, dans des conditions de chirurgie et de blessures de guerre, et puis leur imposer la mort de dizaines de gens de leur âge. Et est-ce qu'on s'est bien posé après la question de l'écoute qu'il fallait accorder à ces soignants qui étaient aussi traumatisés que les autres présents sur les lieux de l'attentat? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude encore de faire, ou insuffisamment l'habitude de faire en France. Le fait simplement que la souffrance, elle puisse être aussi présente chez celui qui soigne, et qu'on a des causes multiples, des causes traumatiques comme ça. Là, c'est un traumatisme brutal, la confrontation à une situation d'exception, mais la confrontation au quotidien à l'éthique, qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Tout ça peut entraîner effectivement un déséquilibre chez le soignant, peut entraîner une souffrance chez le soignant, et par là même altérer aussi la qualité des soins, parce qu'un soignant en souffrance, c'est pas un excellent soignant. C'est quelqu'un qui pense autant à sa propre souffrance qu'à celle des autres. Et donc, c'est un problème essentiel de santé publique, la souffrance du soignant.
Dans mon métier, je suis assez sensible, même très sensible, au risque médical. C'est-à-dire, quand je soigne des gens, je prends vis-à-vis d'eux une responsabilité que je peux qualifier d'exorbitante, c'est-à-dire que je leur dis de faire des choses qui les concernent eux et qui peuvent être salutaires, et heureusement le plus souvent elles le sont, mais qui peuvent être à problème. Et je suis condamné à prendre ce risque-là parce que la médecine n'est pas une science exacte. Comment je me suis intéressé aux médecins malades, pour répondre à votre question? Il y a une dizaine d'années, un collègue, moi j'étais intéressé sur ça, sur la relation, l'humanité, etc. Il m'a dit, mais ton affaire, tout le monde s'en fout. On sait très bien que c'est de l'humanité, que c'est de l'art, etc., mais ça sert à rien. Par contre, on va travailler sur le burn-out. Et moi, à l'époque, je ne savais même pas que ça existait, le burn-out. Il m'a dit, on va créer une ligne téléphonique qui va permettre aux médecins en difficulté d'avoir une aide lorsqu'ils en ont besoin. Ou des psychologues répondent aux appels des médecins à toute heure du jour et de la nuit pour les aider à comprendre ce qui se passe, etc.
C'est l'épuisement. L'épuisement et l'insatisfaction du travail qu'on faisait intérieurement. Une sensation d'impuissance thérapeutique par rapport aux patients. Un sentiment d'échappement. Un sentiment d'échappement.
Est-ce que vous avez pensé au pire, hein?
Non. Le burn-out, enfin, de ce que j'en ai vécu, ne correspond pas à une démarche suicidaire, pas du tout. C'est une démarche de trop-plein. On sait qu'on peut s'en sortir, mais on ne sait pas comment.
Le burn-out est une problématique professionnelle d'une personne en position d'aide vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que si je ne suis pas en position d'aide vis-à-vis des autres, je peux être stressé, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas en burn-out. La définition théorique, maintenant tout est discutable, du burn-out, c'est la personne impliquée dans une relation d'aide avec les autres, c'est-à-dire le soignant, médecin ou autre, l'éducateur, le flic, tous les gens qui vont être censés à un moment ou à un autre, le pompier, etc., si vous voulez, l'assistante sociale, s'intéresser aux autres.
Pourquoi les médecins se suicident tellement? Est-ce que c'est simplement parce que, comme les gendarmes, ils ont une arme pour le faire, eux, ils ont l'arme des médicaments? Est-ce qu'il y a une situation sociale, une situation économique, une situation familiale et qui peut faire qu'ils sont en situation de fragilité? On arrive à des conclusions communes avec beaucoup de pays, en particulier sur l'importance de ce qu'on appelle le dilemme éthique, qui est ce questionnement quotidien sur ce que j'ai fait, sur les risques que j'ai pris, sur les erreurs que j'ai pu faire à chaque instant. J'ai la possibilité, quand je suis médecin, de faire 30 erreurs par jour, au moins. Et je peux m'interroger à chaque fois sur ces erreurs et mal les vivre, parce que de temps en temps, je me dis « oui, mais là, tu t'es trompé, il n'y aura peut-être pas de conséquences, mais est-ce que demain, on ne va pas venir me dire qu'il y a des conséquences dramatiques ?» Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le dilemme éthique, ce choix toujours entre une solution idéale et la solution possible, le choix entre ce qui coûte beaucoup trop cher pour la communauté, ce qui coûte beaucoup trop cher pour le malade, et ce qui est la meilleure solution au sens strictement médical du terme pour ce malade, tous ces choix-là sont des choix traumatisants, usants, parce que répétés chaque jour.
La prise en charge n'est pas qu'une question technique. Ouais. La prise en charge est aussi une question de patient, d'individu en lui-même. Ouais. Le psychisme du patient. Le patient est un tout, hein. On ne peut pas séparer les choses. En médecine, on traite les choses maintenant trop de façon technique, mais pas assez de façon humaine. C'est-à-dire qu'on essaye de séparer la technique et l'humain. Mais c'est indissociable.
En résumé, c'est quoi ? C'est l'incapacité à soigner les malades, c'est ça ?
C'est pas tout à fait l'incapacité, c'est le sentiment d'impuissance à faire face à la demande du patient.
Et ça, vous vous êtes rendu compte de cet état-là ?
Ça se fait de façon progressive, et puis à un moment, on se dit, non, c'est plus possible de continuer comme ça.
Pour rester entre guillemets à la hauteur, au bon niveau, au top, comme on dit, ben ça demande d'être de plus en plus rigoureux, de plus en plus performant, d'être sûr de ne rien oublier, et c'est là qu'on retrouve le problème du perfectionnisme. Donc c'est quelque chose qui est très très positif, très productif, mais si ça devient trop exigeant, à ce moment-là ça devient paralysant. Et si jamais je me dis, si je suis uniquement obsédé, non pas par tout ce que j'ai fait de bien, mais peut-être, mettons, si mon perfectionnisme me mène à considérer que j'ai fait 98% des choses de bien, mais 2% un peu d'insuffisance, et que je ne considère que les 2% d'insuffisance, mais pas les 98% de positif, bah effectivement, je me retrouve dans un sentiment un peu d'imposture, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc., ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, dans la forme maximale, ce qu'on appelle aussi une souffrance éthique, la souffrance éthique des médecins.
Alors, ça se manifeste par des troubles du sommeil, par des crises d'angoisse, par une sensation de lassitude au travail, on se détache petit à petit et on devient non pas moins militant par rapport aux patients, mais on arrive à un moment d'épuisement professionnel en se contentant uniquement de traiter les problèmes techniques. Ce qui est une très mauvaise chose parce qu'on se sépare de la relation qu'on a avec le patient.
Dans le service dans lequel j'étais, comme patient cette fois-ci, qui est un service de chimiothérapie où tous les malades sont des stades tardifs de la maladie. Et il y a des jeunes infirmières qui ont 24 ans, 25 ans, et à qui j'ai posé la question, est-ce que vous avez un soutien psychologique ? Est-ce que vous avez un superviseur qui vous voit régulièrement ? Et elle m'a dit, non, on le voit 5 minutes ou 10 minutes, une fois par an, en groupe, et c'est pas d'une efficacité extrêmement marquée. Et j'ai un peu peur pour ces soignantes-là, qui, confrontées à la mort presque systématique de leurs patients, vont se retrouver en situation de souffrance.
Ils sont livrés à eux-mêmes, en quelque sorte, les corps soignants dans ces genres de situations.
Oui, ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'information sur cette partie du risque du métier, parce qu'il n'y a pas de formation à la philosophie, quasiment. Il faudrait une formation à la philosophie, apprendre que la mort n'est pas forcément un échec. Que la mort, une mort bien réussie, dans le confort, dans la sérénité, pour un patient qui, de toute façon, ne pouvait pas être sauvé, c'est aussi une réussite du soignant. Et que si on vit tout le temps la mort comme un échec dramatique, on va se retrouver soignant en souffrance permanente, puisque tous nos malades, à terme, un jour ou l'autre, finiront par disparaître.
Oui, il y a de la souffrance, oui, il y a de la difficulté, mais il y a aussi de très très belles rencontres, aussi et notamment en psychiatrie. Et l'important, c'est de garder cet attrait pour ce métier et d'arriver à continuer à voir les deux. La plupart des médecins qu'on a ici, en même temps, sont passionnés, continuent à être passionnés par leur métier. Et une des plus grandes causes de souffrance, c'est de constater qu'ils n'arrivent plus à percevoir le bonheur que leur apporte le métier.
Comment ça se passe ? Les médecins qui sont malades, ils viennent vous voir ou ils sont désignés par d'autres médecins ?
Tout se voit. Tout se voit, ça peut être suite à des émissions comme ça, quelqu'un qui l'entend, un médecin qui l'entend, un entourage de médecins qui l'entend et qui lui dit « mais attends, j'ai entendu quelque chose, là vraiment, ça fait un moment que je vois que tu vas pas bien, etc. » Ça peut être, actuellement le plus souvent le cas, les associations d'entraide médicale, puisque donc il y a plusieurs associations, notamment, je voudrais rendre hommage à l'association MOT, Médecins en Réalisation de Travail Santé de Toulouse, le docteur Jean Thévenot et le docteur Jacques Ambière, qui font un travail absolument remarquable sur le terrain, où il y a vraiment un maillage territorial de médecins, ou avec ce qu'on appelle des médecins effecteurs, où on peut téléphoner, et par le biais de cette écoute téléphonique, et une prise en compte de la difficulté, de la souffrance, et orientation vers ceux dont le soignant en souffrance peut avoir besoin. Ça peut être une consultation médicale pour un problème somatique, pas forcément psychiatrique. Ça peut être des aides plutôt à un niveau juridique, à un niveau social. Ça peut être des orientations vers des consultations un peu rapides à un niveau psychologique. Et ça peut être, dans certains cas, effectivement, des nécessités d'hospitalisation en psychiatrie rapide. Mais à ce moment-là, il peut y avoir des réticences, des difficultés du confrère. D'où la nécessité pour nous, en partenariat avec les associations d'aide professionnelle, de contact avec le médecin souffrant, présenter le projet, présenter la structure et proposer des délais d'action très rapides.
La famille, souvent, est le témoin de cette souffrance. C'est-à-dire qu'en dehors du milieu professionnel, la famille est très importante parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a un souci. C'est-à-dire que le caractère change, la motivation change, les relations intrafamiliales, enfin pour les proches, changent également. Il y a une inappétence, si vous voulez, d'initiative, de compromis, de démarche, etc., etc. Et la famille s'en rend bien compte. La famille aide beaucoup parce que la famille permet effectivement de mieux accepter cet état. Parce que la première étape de traitement du burn-out, c'est la prise de conscience. Mais souvent, c'est pas simple, hein. Ça dépend du caractère de chacun, ça dépend de l'affect de chacun, de son passé. Mais ça n'est pas une chose établie de façon particulière. Tout est dépendant de chacun. Tout est dépendant de chacun. Il n'y a pas de règle générale. Mais ce que je vois dans la profession, c'est qu'il y a énormément de soignants qui sont concernés par ce problème. Je ne connais pas les chiffres, hein, faudrait demander au Conseil de l'Ordre. Mais enfin, je dirais, de ce que j'en vois, il y a à peu près 15% des soignants qui sont affectés par ce type de problème. Très souvent, il y a un refus d'acceptation de ce problème. D'autres essayent de résoudre ce problème en prenant des médicaments ou en ayant des conduites addictives. Ça arrive aussi. L'alcool, enfin tout ce qui peut, effectivement.
Les jeux, notamment aussi, pareil.
Voilà, tout est envisageable. Tout. Ouais. Tout.
Et après, donc, vous êtes allé voir un spécialiste, un médecin ?
Alors, ça, c'est la deuxième étape. Une fois que la prise de conscience est effectuée, il faut savoir vers qui se tourner. Vers des thérapeutes qui sont là pour ça. Et heureusement, en France, il y a suffisamment de thérapeutes pour prendre en charge ce type de choses. Que ce soit des psychiatres ou des psychologues, enfin, il y a tout un tas de structures qui permettent effectivement d'en discuter, d'essayer de voir un petit peu comment on peut gérer les choses.
Vous avez accepté votre burn-out ?
Tout à fait. Alors, il faut l'accepter et après, il faut se faire aider, toujours. On n'y arrive pas tout seul. C'est-à-dire que l'aide d'un tiers neutre est indispensable. Indispensable. Parce qu'on est très mauvais juge de sa propre réalité. Très mauvais juge. Ou très mauvais soignant pour quelqu'un qui, normalement, s'occupe de ça.
Comment ça se passe, j'ai envie de dire, ça se passe comme avec quelqu'un d'autre, mais en sachant que ce n'est pas quelqu'un d'autre et en sachant que tous les deux nous savons ce qu'il vit et tous les deux nous savons, on connaît le contexte dans lequel on est, et on le connaît de l'intérieur. C'est peut-être un petit peu comme si vous êtes sur une scène de théâtre, vous êtes acteur et vous voyez jouer une pièce. Vous savez aussi, voilà, une comédie, pour ne pas dire une tragédie. Mais après, rien n'est jamais, comme dans toute histoire commune, rien n'est jamais écrit d'avance. Soi-même étant soignant, on a un peu de mal à s'appliquer à soi-même les recommandations, les préconisations que l'on fait pour les autres, d'une part. Il y a également un sentiment un peu de, quelque part, un un peu de déchoir, je dirais aussi, de se retrouver, entre guillemets, de déchoir, de difficulté à se retrouver de l'autre côté du bureau, de se retrouver dans la position de celui qui demande des soins, alors qu'on est en général celui qui en dispense. C'est un problème auquel nous sommes confrontés, moi comme les autres. Et c'est pas le fait de m'occuper de avec d'autres, hein, attention, je suis pas du tout le seul à faire ça, mais le fait de m'occuper avec d'autres de ce problème des médecins ne veut pas du tout dire que je sois à l'abri aussi de ce genre de difficultés. Peut-être y être un peu plus vigilant que d'autres.
Est-ce qu'un médecin a le droit d'être malade ?
Alors, ça c'est une autre question. C'est-à-dire qu'un médecin, c'est pas qu'il a le droit, mais il est malade comme les autres. Par contre, tout le problème, c'est que lorsqu'un médecin accepte, se fait soigner, dans les structures de soins, le paradoxe est celui-ci, c'est-à-dire qu'il est difficile d'en parler avec les autres patients, parce que ça peut créer effectivement une idée d'un soignant qui est malade. Ce qui veut dire que dans l'idée des patients, qui sont soignés pour des motifs identiques ou différents, ça peut générer un trouble du soin. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent envisager le fait que les soignants sont malades comme eux, ce qui leur fait, par voie de conséquence, leur dire qu'on est soigné par des gens qui sont malades comme nous. Ce qui veut dire que le soin perd de sa crédulité. Enfin, peut perdre de sa crédulité, c'est pas général. Certaines personnes peuvent tout à fait accepter, mais je pense que ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Enfin, pour la majorité.
Mais vos patients, à vous, sont au courant de votre état de santé ?
Non, bien sûr que non. Bien sûr que non.
Vous avez l'impression que c'est un sujet tabou, la maladie des, enfin, un médecin malade ?
Oui, tout à fait.
Pourquoi ?
Parce que dans l'inconscient collectif, un soignant n'est pas malade par essence. Il est là pour soigner, mais pas pour être malade. Ouais. Tout simplement.
Mais dans d'autres cultures, je crois qu'on a tendance à parler facilement de ce genre de sujet. Et pourquoi pas en France ?
Alors, en Europe, on est dans une culture technique, judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'on résout des équations par les mathématiques, par des techniques, par des choses. Alors que dans d'autres sociétés extra-occidentales, effectivement, la parole a un rôle beaucoup plus important. Beaucoup plus important. À ce point que, par exemple, certaines ethnies en Afrique de l'Ouest refusent certaines interventions en ce qui concerne des interventions sur la gorge et qui suppriment la parole. Ils préfèrent mourir plutôt que de ne plus pouvoir parler.
Donc, vous êtes en train de me dire que l'acte en soi est beaucoup plus important que la parole, notamment dans la société européenne.
Tout à fait. Beaucoup plus technique ici. Beaucoup plus, trop technique d'ailleurs. Et il y a une dérive technique qui se fait et qui, à mon avis, n'est pas forcément la bonne. Il est nécessaire d'avoir la technicité de soins, bien entendu. Mais il ne faut pas que ça prime sur l'humain, ça c'est évident. Parce qu'on passe à côté de tout. Là.
C'est une maladie professionnelle qui touche des gens qui ont une certaine psychologie. C'est-à-dire que le gars qui veut faire du business, qu'il soit médecin ou pas, le malin qui cherche l'argent, il va pas être en burn-out. Celui qui va être en burn-out, c'est celui qui croyait qu'il allait sauver des vies ou qui est impacté par la maladie de ses patients ou qui est impacté parce qu'il les aime bien et que, ou alors qui dit « Ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose ». Vous voyez, c'est le burn-out, c'est l'envers de l'humanité, quoi. C'est-à-dire, on peut pas être en burn-out si on est inhumain. Et on est formé, je disais, comme si c'était une science exacte et qu'il y avait toujours une bonne réponse et qu'il fallait la trouver. Mais il y a un hiatus entre ce que j'apprends et ce que je fais et la vraie vie et ce dont je peux parler. L'une des clés, c'est savoir que ça existe, c'est de savoir travailler le hiatus. En disant théoriquement, dans ce cas-là, il aurait fallu faire ça. J'ai pas pu faire ça ou je l'ai pas fait parce que le patient y avait ça, ça et ça. Ou parce que le système n'avait ça, ça et ça. Ou que moi, j'avais ça, ça et ça. Vous voyez, donc travailler sur le fait que la médecine, c'est C'est quelque chose d'énorme, d'extrêmement important, de très respectable, mais n'est pas une science exacte et qu'elle est faillible. Si je pars du principe qu'elle est faillible, elle sera d'autant plus fiable que si je dis « Non, t'inquiète pas, de toute façon, tout est sous contrôle et il n'y a aucun risque ». Et le risque de ça, c'est d'inquiéter un peu les patients qui ont besoin de croire que c'est faillible et aussi d'inquiéter les soignants. Parce qu'encore une fois, si je me dis que les choses ne sont pas comme dans les bouquins, eh ben, je vais jamais y arriver, quoi. Donc, je sais que je dois apprendre les bouquins, je dois apprendre des connaissances, etc. Mais je dois aussi apprendre que la vraie vie, c'est pas les bouquins. Les patients n'ont pas lu les bouquins et qu'ils ont des maladies qui souvent se rapprochent à ce qu'on, de près ou de loin au bouquin, mais qu'on peut travailler avec ça. C'est-à-dire que on va agir, revenir, discuter avec eux, donner ce qu'il faut et puis voir les réactions, etc. Mais c'est justement, c'est réintroduire même dans l'acte médical technique le fait qu'on est dans un échange humain et que ce n'est pas encore une fois une science exacte. Et la formation des soignants par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'humanité, donner la mort, vivre la mort, rencontrer la souffrance, rencontrer des choses difficiles sur lesquelles on ne peut pas toujours faire quelque chose, quoi.
Les jeunes qui viennent sur le marché ont été comme nous, hein. Enfin seront comme nous et sont aussi motivés que nous. Mais je ne pense pas qu'ils soient préservés de ce type de problème. Je dirais même au contraire. C'est-à-dire qu'ils vont être soumis à des contingences peut-être encore plus importantes que les nôtres. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir beaucoup plus effectivement de ce type de pathologie chez les soignants, quels qu'ils soient. Et je pense que ça n'ira pas effectivement dans le... Bon, enfin, j'espère me tromper, mais c'est l'impression que j'en ai.
Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez des endroits en Ile-de-France où des internes font des gardes à l'hôpital. Ils sont censés être seniorisés, c'est-à-dire que si des jeunes, ils démarrent, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Ils appellent, on leur répond pas. Et tout le monde le sait, et on n'en parle pas, et ça continue. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est honteux, quoi. On ne peut pas en parler parce que ça va faire des vagues, mais il y a des problèmes qui se posent par rapport à ça. Si on me met dans une pression où la collectivité demande aux soignants de travailler consciemment dans un système illégal et dangereux, mais de ne pas avoir le droit d'en parler, c'est un problème. Si on maltraite les soignants, eh ben ils ne soignent plus. Soit ils ne veulent plus devenir soignants, ils font plus médecine, ou alors ils font médecine, mais des médecines mises à distance non cliniques, ou alors ils font une médecine rentable, et puis le reste, débrouillez-vous. Donc la clé, c'est aussi d'être capable de pouvoir parler avec mes patients, de pouvoir parler avec l'équipe, mais parler, c'est intéressant, parce qu'on échange de l'information, on négocie. Alors, c'est des éléments aussi culturels, c'est-à-dire comment on se positionne en tant que personne et en tant que collectivité, vis-à-vis, encore une fois, de la gestion des risques, des fragilités, de la capacité à accompagner des gens qui en ont besoin, un vieux qui ça intéresse plus personne, ou est-ce que ça intéresse en disant ben, on sera tous vieux et on a besoin d'être accompagnés dans ces choses-là. Rappelons-nous qu'on a tous été dépendants quand on était bébé, il fallait que quelqu'un s'occupe de nous, quoi. Mais voilà, donc c'est un choix, c'est une notion de valeur. On parle beaucoup, peut-être si vous suivez un peu la médecine, d'evidence-based medicine, EBM. Moi, je développe, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais values-based medicine. C'est quoi les valeurs ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que l'important, c'est de donner tout à tout le monde ? Est-ce que l'important, c'est de soigner les maladies graves et pas les autres ? Est-ce que l'important, c'est d'accompagner les gens uniquement dans les problèmes organiques ? Ou est-ce que c'est aussi de les accompagner dans leurs souffrances au travail, en couple, etc. ? Donc moi, je milite pour réintroduire la valeur, l'humanité, la complexité, l'incomplétude, la fragilité, la vulnérabilité et par ce fait, la sensibilité, la beauté, l'intérêt de l'activité médicale qui est quand même l'un des plus vieux métiers du monde.
Vous êtes là depuis combien de jours ?
Alors là, ça fera 3 semaines demain.
Demain ? Mmh. C'est prescrit à l'avance, les 3 semaines, ou alors c'est une durée qui est logique ?
Non, c'est une durée qui est fixée par le thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute, en fonction de l'évolution de l'état, dit « bon, bah, on peut éventuellement, au bout d'une quinzaine de jours, envisager une sortie, ou qu'est-ce que vous en pensez ?» Enfin, c'est un dialogue permanent qui permet de fixer la date de sortie. Mais il n'y a pas de date fixe et déterminée. Tout dépend de l'évolution des symptômes sous traitement médicamenteux, d'une part, et... sous traitement psychologique.
C'est assez amusant. On a fait une étude sur nos médecins hospitalisés pour voir la durée moyenne du séjour. Et à quelques moments qu'on fasse l'étude, la statistique reste la même, 3 semaines. 3 semaines, c'est la durée des vacances que se donnent les médecins en général. Donc, c'est-à-dire qu'en général, pour se soigner, on se donne 3 semaines.
Donc, au bout de 3 semaines, ils reprennent l'activité?
Souvent. La plupart des cas, oui. Voilà, ici, on essaie de sortir plutôt de cette notion d'épuisement et pour retrouver un épanouissement professionnel.
Et d'autres médecins dans votre entourage, qui sont dans votre situation?
Oui. Mais tous ne l'acceptent pas. Alors, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui prennent des dérivatifs, quels qu'ils soient.
Tout à fait.
Et il est impératif de se faire traiter. Je pense que c'est une des clés du... Enfin, pas de la solution, mais enfin, au moins de la démarche. La démarche en deux temps. D'abord l'acceptation et ensuite la prise en charge des soins.
Si, par exemple, beaucoup de médecins, on parlait du médecin malade, ne s'arrêtent pas de travailler, d'abord parce qu'ils ont besoin d'argent et tout, mais surtout parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce qui va se passer au cabinet? Qu'est-ce qui va se passer avec tous mes patients ?» Donc l'urgence, c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des patients. Si j'ai des jeunes, des dispositifs, de gens qui vont venir me remplacer facilement et que mes patients vont être soignés, il y a des patients qui vont pas bien, donc ils ont besoin de moi. Bon, ils peuvent vivre sans moi, mais si je suis pas là, c'est quand même pas bien. Donc déjà, je vais me soigner plus facilement. Il y a des solutions.
Aujourd'hui, pour le moment, c'est résolu, mais il faut adapter aussi son mode de travail ultérieur pour éviter des rechutes éventuelles. Et ça, c'est pas toujours très simple, mais il faut le prendre en compte, hein. C'est fondamental pour éviter les rechutes ultérieures. Il faut changer les choses, enfin, et modifier en tout cas, hein. Modifier les choses pour éviter de retomber dans les mêmes travers et les mêmes conséquences.
Est-ce qu'on peut changer ?
Non, mais on peut modifier certains comportements. Changer de façon fondamentale, non. Mais modifier certains comportements, oui. Oui, tout à fait.
J'ai le souvenir d'un cancérologue de deuxième ligne, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne voyait que des malades qui allaient mourir et qui me disait « je ne supporte plus la mort de mes malades ». Donc on l'a hospitalisé longuement. On lui a évité d'une façon quasiment certaine un suicide, puisque quand il est venu me voir, il m'avait dit « je viens vous voir ou je me suicide ». Et puis on l'a aidé à reprendre le travail dans une activité totalement différente. On l'a réorienté, et c'est dans sa région un des meilleurs médecins dans sa discipline aujourd'hui, mais il n'est plus soumis à la condamnation portée par chacun de ses malades. Et dans ces conditions-là, à chaque fois que je l'ai au téléphone, il m'affirme qu'il revit et qu'il vit beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est du cas par cas, mais effectivement, si vous sortez quelqu'un des flammes pour soigner ses plaies, ne le remettez pas dans le feu après.
Je reprendrai le métier, bien sûr. C'est pas le métier qui est un refouloir en soi, mais c'est surtout la méthode. C'est-à-dire qu'il faut se préserver, il faut éviter d'en faire trop, il faut éviter d'être trop militant, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut savoir se préserver aussi. Parce que sinon, on tombe facilement dans des excès.
Du coup, votre regard va changer aussi par rapport à votre métier.
Ah, tout à
une
fait.
Une fois sorti de l'hôpital.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler, mais dans des conditions différentes. Différentes, hein, sur le plan de la pression médicale. Il est très difficile de dire non à un patient qui souffre. Tout le problème, là.
C'était Médecin, une profession au bout du rouleau, avec Yves Léopold, Éric Galam, Emmanuel Granier, Sandra Char. Merci au professeur qui a témoigné de façon anonyme. Attachée de l'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. coordination Irène Omelianenko. Un documentaire de Hayati Bazarslan. Mixage Jean-Baptiste Layato. Réalisation Jean-Philippe Navarre pour Sur les Docks.